c'est avec essentiellement l'époque de Galilée. Bon, évidemment, c'est jamais une seule personne, mais on dit Galilée, qui fait la chose suivante extraordinaire, qui dit « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique », qui fait donc le lien qu'on n'avait jamais fait entre la connaissance de la nature et puis les mathématiques et la démonstration mathématique qui datait de l'époque grecque, de Clyde et tout ça. Et donc introduit une situation tout à fait spéciale dans laquelle, avec les mathématiques et aussi l'expérimentation, effectivement, enfin les deux éléments qu'amène Galilée, on peut arriver à se convaincre, pas par la démonstration mathématique pure, par d'autres mécanismes, mais d'un savoir qui commence à s'installer et qui n'est jamais incontestable, mais dont les méthodes de construction ne sont pas ceux de la délibération ni d'autorité, d'où le conflit entre Galilée et l'Église, ni de la démocratie. C'est un autre mécanisme qui s'installe. Et le problème de la démocratie va se poser, c'est pour cela que je vais développer ici, je ne vais pas évidemment trop long, c'est que ce faisant, il y a des progrès dans la connaissance du monde qui sont absolument stupéfiants, qui se cumulent en plus pendant toutes ces années-là, mais démarre à ce moment-là un mécanisme d'écartement entre la façon de faire de cette chose-là et puis les connaissances des gens, les connaissances populaires que les gens peuvent avoir. Les savoirs scientifiques, du fait de entre autres de l'existence des mathématiques au milieu, ont tendance à devenir ésotériques. Et cette question-là n'est pas liée à la question du capitalisme, n'est pas liée à la question des multinationales, toutes ces questions tout à fait vraies, incontestables, mais c'est intrinsèque au problème que nous avons à résoudre. Je vous donne simplement un chiffre. Dans l'année dernière, il y a eu plus d'articles scientifiques qui ont été publiés que d'une manière cumulée depuis le début de l'histoire de l'humanité. Autrement dit, l'évolution des connaissances, leur spécialisation, nous éloigne inévitablement de la possibilité de les maîtriser tous. Et en plus de ça, pour la physique que je connais le mieux, les deux théories physiques qui sont d'ailleurs incompatibles, ça c'est une autre question pour les spécialistes pour l'instant, c'est-à-dire la relativité d'Einstein et puis la mécanique quantique, c'est absolument impossible à faire partager sérieusement si vous n'êtes pas vous-même physicien. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Bon. Et ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'on en est à peu près privé. Pour arriver à en discuter à égalité avec quelqu'un qui connaît la relativité et la mécanique quantique, il faut avoir étudié, c'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est réservé à des génies. Tout est possible, on peut éduquer tout le monde en mécanique quantique, mais il faut faire l'effort. Bon, et cet effort ne peut pas être fait partout et sur tout le temps. Donc, inévitablement, il existe des domaines de la connaissance scientifique dans lesquels nous sommes incompétents. Et je dis nous parce que je me mets dedans, parce qu'avec la spécialisation des sciences, ça fait que si vous me sortez de mon domaine de la relativité et de la mécanique quantique, dans un domaine de la physique, juste à côté, je suis à peu près incompétent. Sans parler des mathématiques, de la biologie, de la chimie, de l'archéologie. C'est une question qui est générale, qui dépasse les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques ne sont pas une communauté qui domine les sciences. Elles n'existent nulle part. Donc un problème. Cette évolution-là, n'oubliez pas l'origine de l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer l'aspect progressiste de ce que ça représente comme mécanisme de mode de pensée et de mode de conviction des gens, d'emporter la conviction des gens par le raisonnement scientifique. Mais en même temps, il y a un problème qui est lié à la démocratie. C'est-à-dire que, autant à l'époque grecque, les deux questions pouvaient cheminer de concert, autant maintenant, elles s'écartent. C'est-à-dire que vous avez la science qui se développe d'un côté, qui se développe d'une manière, qui se spécialise de plus en plus et qui s'écarte de la possibilité des populations de pouvoir la maîtriser et donc de la contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation? Alors d'autant plus que, j'ajoute ça, cette science en plus de tout, c'est pas seulement la connaissance pure. Il y a une évolution qui font que les problèmes, les évolutions données par les sciences sont au cœur de choix sociaux. Et vous me direz, ça a toujours été le cas. Non, pas au point que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, ce qui se passe en physique, ce qui se passe en biologie, ce qui se passe partout, pose en permanence, tous les jours, chaque fois, de plus en plus, des problèmes de choix de société. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait avec la nanotechnologie? Qu'est-ce qu'on fait avec les OGM? Est-ce qu'il faut construire le grand arc, le grand truc du CERN qui s'est construit à Genève, qui vient de donner que les neutrinos seraient, iraient plus vite que la vitesse de la lumière? Je crois que non. C'est un autre problème. Enfin, sérieux, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut envoyer des trucs sur la Lune? Toutes ces questions-là sont maintenant des choses qui sont au cœur de choix sociaux. ça n'a jamais été autant que maintenant. Donc il faut pouvoir le contrôler. Et on n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est une contradiction terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel choix? Quel principe il faut donner? Est-ce qu'il faut donner le pouvoir aux scientifiques du fait que leur méthode de fabrication de la connaissance serait plus pure, plus profonde, plus claire que le choix démocratique est dans le doute? Moi, ce que je veux défendre, c'est l'inverse. C'est qu'au final, malgré toutes ces contradictions-là, il faut impérativement que les décisions qui concernent la vie des populations reviennent aux populations. Autrement dit, d'une manière brutale, et je vais évidemment tempérer après, nous sommes tous incompétents, inévitablement, et pourtant le pouvoir doit être donné aux incompétents. En définitive, la démocratie, c'est quand même le pouvoir donné aux incompétents, c'est, évidemment, je vais tempérer par la suite, mais si on n'accepte pas ce principe de base, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus que le pouvoir à les spécialistes qui eux-mêmes ne maîtrisent rien. Je suis en train de vous expliquer, parce qu'il n'existe pas, le spécialiste est-ce tout, il n'y a pas. Ça ne peut pas exister nulle part. Comment on fait? Alors, moi, bon, comme d'autres, après, je tombe sur le même type de solution, mais après avoir pris la précaution, je veux dire, c'est un problème compliqué. Premièrement, bien saisir que la science, les scientifiques ne sont forts que dans un domaine restreint. Ils ne sont forts à la mesure des problèmes qui se sont taillés pour les réfléchir. En physique des particules, il est fort en physique des particules. Mais évidemment, enfin, on peut espérer qu'il est fort dans ce domaine-là. Mais à côté, non. Donc quand vous voyez quelqu'un qui va à la télé, qui vous dit « moi je suis prix Nobel de physique, et je veux donc vous indiquer mon opinion pour savoir s'il faut faire la guerre en Irak ou pas », vous pouvez être sûr qu'il est peut-être prix Nobel, mais quand il parle de la guerre en Irak, il parle en tant que citoyen comme vous. Donc le fait de dire « je suis fort comme science et je me permets de parler de n'importe quoi », vous savez déjà que c'est une tromperie. Ça, il faut refuser, absolument. Il est peut-être pas dans son domaine, il parle dans son domaine. Mais au-delà, je suis son égal en réalité. Voilà. Deuxièmement, le domaine de l'expertise. Parce qu'entre la population et les sciences, il y a les experts. Alors les experts, c'est pas des scientifiques. Même si un scientifique peut être expert, ou si un citoyen peut être expert. Mais ce ne sont pas des scientifiques. La méthode de réflexion de l'expert n'est pas construite exactement de la même manière que celle des scientifiques. Ça s'appuie sur un certain nombre de savoirs scientifiques. Ça se mélange à des réflexions sur les choix sociaux ou sur les choix politiques, et donc ça donne un avis. Par exemple, est-ce qu'il faut le nucléaire? Bien sûr, c'est un débat, on peut au début accepter que quelqu'un nous dise « je vais vous montrer pourquoi il faut le nucléaire ». Admettons, c'est un débat d'experts. L'expert, ça vaut mieux que les citoyens incompétents, c'est un pas de plus, mais ça n'est pas la science, c'est pas la vérité. On ne peut pas démontrer une expertise, on peut convaincre par l'expertise, ça se rapproche un peu de la conviction sur l'arène, mais ça ne peut pas se démontrer une expertise. Dès que vous avez les experts, le choix, la pression démocratique exige qu'il y en ait plusieurs. C'est un des points majeurs. Il n'y a pas un seul expert qui vient du gouvernement, il y a plusieurs experts au gouvernement, c'est déjà pas mal, qui travaillent pour le gouvernement, contradictoires, financés tous les deux par le gouvernement, mais contradictoires, éventuellement, et puis les experts citoyennes. Il faut que la possibilité de la démocratie exige la multiplicité des expertises. Et c'est là, évidemment, qu'on est tombé sur un problème, c'est que qui finance ça? Bon, mais certains, la CAIRAT, par exemple, est financée par les citoyens, mais c'est exceptionnel. Donc il faudrait qu'il y ait des financements publics pour des expertises, y compris qu'il y a contre la volonté et la décision d'un gouvernement. Donc c'est des choses un peu compliquées. Mais c'est indispensable du point de vue de la démocratie. Mais ça ne suffira pas. Parce que si vous faites ça, c'est déjà pas mal, hein. Mais si vous faites ça, au final, vous n'aurez le choix qu'entre les experts. Ce ne sera pas un choix du peuple. Il faut aller un pas supplémentaire et considérer qu'en définitive, bien que nous sommes tous incompétents, on peut, quand les questions nous sont posées d'une certaine manière et qu'on s'engage d'une certaine manière, gagner une compétence suffisante pour avoir un choix qui ne soit pas démagogique mais raisonné. Alors, tu l'as développé tout à l'heure, je ne vais pas être trop long, il y a plusieurs exemples de ça, j'en ai donné un tout à l'heure, mais je ne vais pas être trop long là. Pour l'idée, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut tirer les citoyens au sort et puis les former. On peut mobiliser des groupes de gens qui sont mobilisés pour une question concrète chez eux. Moi, la question que j'ai racontée tout à l'heure, parce que j'ai été aussi élu dans une municipalité, c'était la question de l'installation de l'incinérateur. Donc les gens ne voulaient pas d'incinérateur. Comment on fait pour prendre ce problème? De quoi on discute? Comment on se forme sur cette question-là? Et la preuve est faite qu'avec des gens de niveau de formation relativement bas, avec l'investissement qu'on peut avoir dessus, on peut gagner beaucoup de compétences sur cette question-là. Autrement dit, il y a une contradiction fondamentale dans l'évolution des sciences et de la démocratie. Parce que le mécanisme de fonctionnement des sciences n'est pas le mécanisme démocratique. Ça fonctionne sur un autre mode. Ou alors c'est la dictature idéologique. Hein, c'est-à-dire que, comme on a connu d'ailleurs avec les nazis, les staliniens, qui expliquaient que du fait de leur idéologie, la science devait être de telle ou telle manière. Ça, évidemment, on ne peut pas accepter une chose pareille. Donc c'est pas le mécanisme du pouvoir politique, même du pouvoir politique populaire et démocratique. Ça fonctionne sur un autre mode. Et pourtant, il faut quand même qu'il y ait la démocratie sur ces questions-là, d'autant que ça prend une place de plus en plus fondamentale dans notre vie. Et je conclue par la chose suivante, que j'ai écartée au tout début, vous vous rappelez. Je dis, j'enlève les multinationales, j'enlève tout ça, maintenant je vais les remettre. Parce que, évidemment, ça c'est un problème que nous aurions, même si ce n'est pas les multinationales. La relation entre la science, ils ont une société émancipée, libérée de tout, telle qu'on la rêve, je pense, assez nombreux dans cette salle, on aurait ce problème à résoudre quand même. Maintenant, il est évidemment très compliqué à résoudre si en plus de tout ça, vous avez au milieu des intérêts privés, en plus pas n'importe quel intérêt privé, c'est l'intérêt privé qui domine le monde, c'est pas n'importe quel intérêt privé, nous avons plein d'intérêts privés dans cette salle, mais les intérêts privés qui sont au pouvoir, et dans lequel la loi qui domine, qui dirige cet intérêt privé, n'est pas ni le développement de la connaissance, ni le développement de la démocratie, mais le développement du profit. Quand vous avez une telle structure sociale, bien entendu, la recherche de la démocratie et du contrôle démocratique des sciences et de leurs applications est une question qui est extrêmement, extrêmement compliquée. En fait, elle n'est pas possible à résoudre. Il faut dire les choses très clairement. Nous pouvons peser sur tout ça. Ce que j'indique là, je conclue par là, c'est l'idée de dire qu'il y a des problèmes, il faut faire confiance aux populations pour arriver à résoudre cette contradiction dans le bon sens, en ayant fait le choix au départ de dire on donne le pouvoir aux incompétents, ou plutôt incompétents, qui peuvent gagner de compétences, mais en même temps, évidemment, si en plus de tout ça, il faut lutter contre des arguments qui ne sont pas purement rationnels, là pour le coup, ou irrationnel au sens de ce que j'ai dit de la démocratie grecque, et on se convainc les uns les autres, mais avec l'existence d'un système très particulier que le capitalisme, tel qu'on le connaît en plus maintenant avec les multinationales, le pouvoir qu'elles ont, etc., c'est évidemment un problème compliqué. Donc, autrement dit, si on veut gagner du poids démocratique dans tout ça, il faut discuter des problèmes, je pense, que j'ai abordés avec vous, mais il est inévitable aussi qu'il faut gagner de l'espace de liberté par rapport à toutes ces multinationales qui imposent ce qu'elles imposent. Je vous remercie.
Donc je viens devant parce que je suis administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes, donc c'est pour ça que je suis là. La Fondation Sciences Citoyennes, c'est une fondation qui tâche de mettre, donc c'est la première intervention, mais j'ai après une question, une intervention directe à faire. Fondation Sciences Citoyennes, c'est mettre la science, la technique de l'expertise à la portée du citoyen. Alors, avant de faire une vraie intervention, il y a une énergie propre. C'est l'énergie solaire transformée en photosynthèse. Celle-là, elle est... Et nous en vivons d'ailleurs. Nous en vivons très bien. C'est l'agriculture qui utilise cette photosynthèse, qui peut faire de la biomasse, du pain, des matériaux de construction, c'est-à-dire le bois. Et les spécialistes, les experts disent que les citoyens ne sont pas capables de comprendre la très haute technicité. Alors on va parler du nucléaire, non, puisque vous êtes un physicien nucléaire. Je pense que toute notre société dépend de l'agriculture et donc de la paysannerie. Et c'est une ingéniosité absolument extraordinaire, la paysannerie. Nous avons été capables depuis 10 000 ou 20 000 ans, de domestiquer la nature à notre avantage, mais sans la brutaliser. Et imaginez l'ingéniosité pour faire du vin de figue. Plus personne aujourd'hui ne doit savoir faire du vin de figue ou de faire un vin liquoreux. Donc, nous avons réussi à le faire en plusieurs millénaires, mais donc pourquoi ne serions-nous pas capables de comprendre E égale delta MC2 ou E égale MC2. Il faut des explications, il faut peut-être des spécialistes comme vous pour le faire. Mais je pense que chaque citoyen est capable, avec des pédagogues, bien entendu que M. Pierre Pellerin-Pimpin n'est pas capable de bien expliquer à tout le monde. Je l'ai eu comme professeur de physique nucléaire, donc, mais avec quelqu'un qui veut faire avancer les gens, chacun d'entre nous est capable de comprendre et donc de pouvoir décider les techniques que nous pouvons tolérer pour notre société. Donc, ne pas penser chacun d'entre nous que nous ne sommes pas capables de comprendre la science, de comprendre même les lois, le fonctionnement légaux sont des choses relativement simples quand on s'y penche un petit peu. Voilà. Donc, bien penser que chacun d'entre nous sommes capables d'être experts.
C'est un peu compliqué de répondre à ça parce que je suis, disons, en matière d'éducation. La gauche et la droite, vous avez compris que c'est plutôt de gauche, on pourra aller rapidement, divergent sur la question du principe d'éducabilité universelle. C'est une vieille question en éducation. Il y a certaines personnes qui pensent que les gens naissent doués et que donc, au mieux, on peut développer les dons de la personne. Et donc, il y a une limitation, puisque si vous n'êtes pas doué, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Et de l'autre côté, en général, disons, les pédagogues de gauche partent du point de vue de l'éducabilité universelle. Bien sûr qu'ils savent qu'il y a une limite. Vous pouvez avoir des handicaps, par exemple, qui font que ben, ça va bloquer au bout d'un moment. Et l'autre principe général, c'est éducabilité universelle, et c'est le mien. Je défends ça absolument. Bon. Maintenant, la question est la différence entre la potentialité et la réalisation. Tout le monde peut apprendre, mais il est impossible que tout le monde sache tout. Voilà. Et ça, on l'a d'un autre point de vue. Si vous voulez, dans l'histoire de cette chose-là, il y a un point de tournant majeur de la compréhension de cette question, c'est l'encyclopédie, celle de Diderot. Diderot en particulier, parce qu'on dit Diderot d'Alembert, mais en fait c'est Diderot. Diderot a publié un prospectus pour présenter l'encyclopédie, pour dire ce que c'est. Alors l'encyclopédie, bon, ça vous dit quatrième, si vous avez fait ça en terminale, en général vous avez fait les articles de l'encyclopédie, mais ceux qui sont nobles, c'est-à-dire le tome 1, où il y a l'article philosophie, l'article mathématique, etc. Mais l'encyclopédie, c'est pas ça. C'est les 29 autres tomes que Diderot présente comme étant la somme du savoir humain de l'époque. Et le savoir, c'est le savoir des arts. Exactement l'exemple que tu prends, c'est-à-dire la physique, etc., pour toutes ces questions-là. Et quand il présente ça, il dit, et tu vois, on voit bien à quel point, ce qu'on appelle les arts à l'époque, c'est l'art de l'artisan, hein, c'est pas le tableau. Bon, donc par exemple, la boulange. Comment on fait pour faire du pain? Comment on fait pour faire la farine et tout ça? Comment on fait pour faire du papier? L'encyclopédie, c'est ça. Et il explique dans le prospectus, que pour réaliser ça, il est allé lui-même, il a mis 30 ans à faire, hein, il est allé lui-même faire des stages dans les différents éléments, il n'a pas fait tous les articles, c'est absolument impossible, il y en a énormément. Bon. Et aujourd'hui, l'encyclopédie, ce ne serait pas 29 tomes, ce serait 290, vous voyez, l'explosion que l'on connaît. Et donc, pour chaque art, il y a un langage particulier, il y a des termes particuliers. Diderot a inventé le fait de dessiner des diagrammes, ce qui est très courant maintenant, mais c'est la première fois dans l'encyclopédie qu'il montrait les étapes stylisées de comment il fallait faire. Et il dit, et il défend, et c'est le point de la discussion, que pour chaque art, il y a un savoir spécifique, particulier. Alors, s'ajoute après, en dehors de ça, une autre question que les sociologues comme Bourdieu, etc., ont bien développé, qui est le fait que la société décide, pour d'autres raisons, une hiérarchie de ses savoirs. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs considérés comme nobles, et le contraire de noble, vous savez pas ce que c'est ignoble. Et des savoirs ignobles. Donc, par exemple, la mathématique, c'est un savoir noble, mais la boulange, c'est un savoir ignoble. Et ça, c'est pas chez Diderot. Tous les savoirs sont à égalité. Autrement dit, pour reprendre encore et encore durcir la métaphore, je peux te dire, on dit en général, un footballeur, c'est un pauvre mec, il n'est pas très intelligent. Un footballeur physicien, ça ne peut pas se concevoir parce qu'il est con, il est limité. Mais un physicien footballeur, c'est pareil. Si vous voulez avoir quelqu'un qui est physicien et footballeur, il faut qu'il apprenne la physique et le football. Il n'y a pas de passage facile de l'un à l'autre. Ça, c'est pour l'encyclopédie de Diderot. C'est-à-dire, il te dit, si vous voulez avoir tous les savoirs, il y a une liste des savoirs, et il n'existe pas un point de vue de Dieu qui est le savoir sur les savoirs. Parce que si ça existait, on le saurait, il y aurait une université qui vous expliquerait un seul savoir qui vous permettrait de dominer tout le reste des savoirs. Mais ça, il n'y a pas. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir les deux principes en même temps. L'encyclopédie que fait Diderot, elle est là pour dire tout le monde peut accéder à tous les savoirs. Donc on est d'accord, sans problème. Mais ce n'est pas réalisable. Aucune personne ne peut connaître tous les savoirs. Et quand j'ai besoin de mobiliser un savoir, c'est ce qu'on discutait là, il y a des moyens de le faire. C'est ce que tu fais, etc. Quand tu as besoin de le mobiliser. Mais aucune personne dans cette salle, toi comme moi, etc., ne peut disposer de tout le savoir humain, ce n'est pas possible. Donc c'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que, et il y a des gens qui sont spécialistes dans certains savoirs. Les éboueurs, par exemple, j'ai fait des études sur les éboueurs de 6 mois, ils avaient des savoirs que les gens sous-estiment, les ingénieurs de l'arc sous-estiment considérablement. Par exemple, ils avaient une réflexion très particulière sur leur. C'est Marseille, hein, on dit, ils avaient un savoir fantastique. Comment organiser les tournées? Ça, en mathématiques, ça fait partie, c'est lié à ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. Qu'on sait résoudre un peu par ordinateur, mais qu'on ne sait pas résoudre de manière analytique. C'est-à-dire, quand vous avez un certain nombre de villes, dans quel ordre il faut les faire. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de grande mathématique pour résoudre ça. Et bien, eux, ils avaient ce savoir-là. Est-ce que tu l'as, toi? Oui, si tu veux l'apprendre, tu peux.
Voilà,
mais tu l'as pas directement.
Non, donc, parce que je n'en ai pas besoin, mais si j'en ai besoin, je pourrais. Et tout le monde est capable.
C'est pour ça que c'est compliqué comme réponse, parce que je suis d'accord sur le principe de base, mais que ça soulève quand même un problème compliqué. C'est qu'à chaque fois, il faut refaire l'effort. Si tu veux discuter incinérateur, il faut te former sur l'incinérateur. Ça n'est jamais impossible. Voilà. On est d'accord. Sur ça. Mais en même temps, alors après, il y a une dernière chose, je ne vais pas être trop long, là qui est un peu plus triste, un peu plus pessimiste. C'est que, puisque tu travailles justement sur ça, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une dégradation considérable de la relation des sociétés avec les sciences. Bon, qui est dû à des facteurs extrêmement divers, mais qui est incontestable. Par exemple, là, il y a une chute, mais ça fait des années, il y a une chute considérable des gens qui s'orientent dans l'enseignement des mathématiques et des sciences. Il y a maintenant moins de candidats à ces concours que le nombre de postes. Avec tout le chômage qu'il y a, il faut considérer. Alors pourquoi? Je n'ai pas le temps de développer cette question tout à fait diverse, mais il y a quand même un problème de fond dans la société, c'est qu'il y a une péjoration. De ce relève de savoir scientifique, on va être d'accord là-dessus, mais c'est vraiment un problème majeur. Je donne juste un exemple, je prends des fois, vous allez à une soirée, et à cette soirée, d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, ah mais vraiment, la période bleue de Picasso, c'est pas celle que je préfère. Il y a des gens qui connaissent, des gens qui connaissent pas. Mais en gros, les gens vont discuter de l'affaire. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais vraiment, alors, la question du boson de Higgs, c'est vraiment une question qui me préoccupe de manière fondamentale, c'est ce qu'ils sont en train de chercher au CERN. Cette personne-là, dès qu'elle a dit ça, plus personne ne lui parle de tout le reste de la soirée. Parce que ça fait peur. Et y a, alors que l'idée, c'est que les mathématiques dominent, que les sciences dominent, dans la culture réelle, c'est exactement l'inverse. Et c'est une leçon mondiale, c'est pas que français. Bon, j'ai pas le temps de. Donc c'est un truc qui, moi, me travaille beaucoup, comme je ne travaille pas, mais incontestablement. Bon. Et dans lequel il faudrait s'interroger, parce que ça ne ferait qu'accroître les problèmes que nous avons de discuter sur la maîtrise démocratique des sciences. C'est que alors peut-être, parce que les gens considèrent que c'est tellement loin d'eux, que c'est pas pour eux. Donc l'idée première, c'est ce que tu fais comme boulot, si j'ai bien compris, mais que je partage totalement, c'est de dire. C'est pour vous. Rien d'humain n'est étranger aux humains. Donc les sciences n'est pas étranger aux humains. C'est possible. Mais en même temps, c'est tout ce que je viens de développer, il ne faut pas sous-estimer les difficultés sur ce chemin. Et c'est tout. Voilà.
Un citoyen, il est formé au sein de sa famille et puis quand même au sein de l'école. Et je voudrais savoir, au sein de l'école, qu'est-ce qu'on pourrait changer, en fait, pour faire en sorte qu'un citoyen il récupère réellement cette capacité de choix. Parce que j'ai pas l'impression qu'à l'école, on va dans ce sens-là. En fait.
On peut faire beaucoup mieux, mais avant de répondre par la négative, il faut répondre quand même par la positive. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses que les gens apprennent à l'école. Je laisse de côté l'élément de base qui est lire et écrire quand tu n'as pas de difficulté. Bon, en général, les gens apprennent à lire et écrire, et ça, c'est absolument capital, hein, parce que ça, c'est des éléments qui permettent ensuite de. Tout ce qui travaillait à l'école s'appuie sur des pratiques écrites. Les mathématiques aussi, contrairement à ce que les gens pensent, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire sans les écrire. Mais bon, enfin bon. Mais l'essentiel, l'école fait. Apprend des éléments fondamentaux qui ne s'apprennent pas dans toutes les familles, c'est que le monde peut se voir sous forme de problèmes, de questions, qu'il y a des moyens de résoudre, et qu'on peut, peut se faire confiance sur le fait de le résoudre. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que dans la vie courante, on n'a pas de problème. Jamais. Et heureusement, parce que sinon on n'en vivrait pas. Parce que toute une journée, c'est toute une série de routine que l'on met en place. J'ai pris une chaise, je me suis assis, mais si je me pose la question quelle est la trajectoire physique de la chaise, avec quelle dynamique de la chaise a pu se... je ne pourrais jamais le faire. Donc nous disposons tous de grandes routines, mais le monde ne se pose pas sous forme de problème. Sur les familles, c'est une grosse question, parce que maintenant ça a un peu changé, mais disons que ce qui distinguait les catégories les plus populaires des catégories en particulier des catégories de type enseignant, c'est que dans les familles les plus populaires, en général, les savoirs se présentent sous forme non problématique. La réalisation de l'acte suffit à la fin. Dans les familles d'enseignants, vous trouvez des situations dans lesquelles, par exemple, l'enfant met la table. Eh bien, il y a un enseignant qui va lui dire: comment tu as fait pour mettre la table? Alors que tout le monde sait comment il a fait. Il a mis un pour papa, un pour maman, etc. Mais, alors, donc il n'y a pas de problème. Mais il y en a un quand même. C'est-à-dire que je vais transformer quelque chose, il n'y a pas de problème. Qu'on prend les profs dans les classes. C'est-à-dire ce qu'on appelle des fausses questions. Parce que, bien sûr, je sais comment il a fait. Mais je veux qu'il me dise quand même comment il a fait. Et c'est exactement ce que fait un prof de maths quand il te dit quel coefficient x dans cette équation. Ce n'est pas un problème des mathématiciens, ils l'ont résolu depuis longtemps. Ce n'est pas un problème pour le prof, puisqu'il connaît la réponse, et jamais l'élève va lui répondre: mais pourquoi tu me poses cette question, puisque tu connais la réponse. Il joue ce jeu de s'interroger à comment on fait pour mettre le monde en problème et comment on fait pour résoudre ces questions-là. Ça, l'école le fait, disons, le faisait. Alors, c'est une petite difficulté. Beaucoup. Ce qui s'est traduit depuis la scolarisation générale par une augmentation considérable du niveau d'éducation. Alors les gens insistent au niveau d'éducation sur: je connais ça en histoire, je connais ça en poésie, ce qui est vrai aussi. Moi j'insiste sur ça, c'est-à-dire le fait de dire, bon, mais, par exemple la poésie, c'est une manière de je sais parler, et d'un coup quelqu'un me dit: mais tu sais, comment tu parles? Tu fais de la prose. Comme vous savez, beaucoup de gens font de la prose sans le savoir, mais à partir du moment où je me pose la question, je fais de la prose, ça c'est typiquement, mais il n'y a pas de problème, puis d'un coup il y en a. Quelqu'un me dit: tiens, c'est vrai, ben, je fais de la... donc je peux faire de la poésie. C'est ça l'intérêt. C'est que si je fais de la prose, c'est que donc il y a une autre façon de parler, et que donc peut-être je fais de la poésie. Dans toutes les disciplines, vous avez ces choses-là. Bon, le problème c'est qu'avec l'évolution libérale de l'éducation, ça reste fondamental quand même, mais avec l'évolution libérale de l'éducation, tout ça c'est en train d'être sapé à la base. Parce que on rentre essentiellement par des compétences de plus en plus étroites. C'est justement le fait de réaliser l'acte suffit à la réalisation de l'affaire. Bon, mais c'est un mécanisme de fond qui, s'il va au bout, dans 10, 15, 20 ans, aura quand même bien détruit les fonctions éducatives. C'est pas encore complètement fait. Alors, comment on peut améliorer? C'est la question qui était posée. Mais j'insistais d'abord sur le fait que, malgré tout, ça donne une base quand même assez importante, qui fait que la société que nous connaissons n'a absolument rien à voir avec la société française qu'on connaissait par exemple en 68. En 68, il y avait, pendant la grève de 68, la grande grève ouvrière, soit pas la grève étudiante, il y avait des tas d'usines où les ouvriers ne savaient pas lire les tracts, où il fallait leur lire, parce qu'ils ne savaient pas les lire. Entre les lire, évidemment pas les écrire, et par contester quelqu'un qui l'avait écrit. Donc vous voyez, c'était quand même une soumission extraordinaire à tout ça. Dans les derniers mouvements sociaux, 95 ou le dernier en 2010, 95, sur les mouvements avec les cheminots, ben, l'écart entre un cheminot et puis son instit, est devenu tout à fait dérisoire. C'est-à-dire, l'institut va chez le cheminot, le cheminot va dans les assemblées générales d'instituteurs, ça ne serait jamais vu il y a 40 ou 50 ans. Parce que le niveau d'éducation, c'est beaucoup rapproché de l'affaire. Bon, donc, il ne faut pas être trop pessimiste sur ça, ça que je veux indiquer. Et tous les mouvements sociaux que l'on connaît, qui est quand même l'élément où l'on mesure le mieux ça, montrent à l'évidence une chose de ce type. Les dernières grèves de travailleurs sans papier à Paris, avec des manifestations, etc., que l'on a connues, moi j'ai des étudiants qui faisaient des recherches là-dessus, bon, c'est des sans-papiers, on peut dire c'est très bas niveau scolaire, mais le niveau est quand même très proche, des disputes syndicales, des disputes d'organisation de l'Assemblée générale, des disputes d'y aller, bon. Bon, bref. Alors, comment améliorer tous ces éléments-là? Il y a une seule chose, il faut accentuer la coupure de la fonction de l'éducation avec les intérêts économiques de la société. C'est vraiment l'élément absolument majeur, alors que de partout, c'est l'inverse, comme on dit. Et on comprend pourquoi, parce que l'emploi, parce que tous ces éléments-là, les gens... Mais l'école ne peut pas réaliser sa fonction si on lui met comme tâche le fait de s'adapter à l'économie. Je ne dis même pas de s'adapter à un emploi, mais ce n'est pas sa fonction première. Ça ne peut pas être sa fonction première. Donc, la pression qui est exercée sur l'école fait que ça va en sens inverse, mais à partir du moment où vous acceptez cet élément-là, le fait d'avoir d'aller en sens inverse, bien sûr, de ce qui est fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins d'élèves par classe. Bon, enfin, ça, c'est des éléments, je vais rentrer trop dans les détails, parce qu'en plus, quand on nous lance là-dessus, comme c'est ma spécialité professionnelle, c'est difficile. Bon. Mais par rapport à la question, après, il y a toutes les réflexions sur discipline par discipline, comment faire en sorte d'améliorer ces types d'éducation. Comment faire en sorte que les élèves s'en emparent plus. Alors, en particulier, c'est un des points de la crise des mathématiques et des sciences. C'est que se servir de ces disciplines comme disciplines de sélection ne peuvent que faire détruire complètement le rapport des gens à la culture scientifique et à la culture mathématique. Il y a une pression fantastique qui est venue de partout dans la société en disant « mais c'est terrible, le niveau baisse, les mathématiques, les gens ne savent plus rien, etc. Bon. » Et ne pas s'adapter au fait qu'il faut des mathématiques pour la grande masse du peuple. Et maintenant, on paye le prix. C'est-à-dire que les gens disent « si c'est pas pour nous, c'est pour eux, donc c'est pas pour moi, vous faire foutre. Voilà. » Et c'est une question qui est... Ce sont des questions qu'il faut regarder dans le détail, mais on peut améliorer beaucoup. Mais bon, il faut bien dire que l'évolution récente, essentiellement depuis le milieu des années 90, avec l'explosion du libéralisme, en gros, hein, les choses sont allées quand même assez mal. Et en particulier là, alors tout récemment, ça c'est le gouvernement, bon, c'est le gouvernement actuel, c'est pas pour faire de la politique de bas niveau, mais la destruction de la formation des enseignants, c'est une question de fou, quoi. C'est une question complètement dingue. Ils ont éliminé ça, ils balancent des enseignants sur toute formation. C'est terrible pour les enseignants, mais évidemment, c'est pas les élèves, c'est une année perdue. C'est, vous avez un enseignant de début, c'est une année perdue, inévitablement. Donc, et puis, il y a des sociétés où ça marche bien. Pas beaucoup, on en parle beaucoup de la Finlande, à juste titre, parce que ça marche effectivement bien, mais c'est une société, d'abord, qui est moins inégalitaire que la France. C'est pas le pays le plus inégalitaire, mais en tout cas le moins inégalitaire que la France, et puis dans lequel il y a une mobilisation de toute la société pour son éducation à un point qui est incroyable, et dans lequel les gens n'admettraient certainement pas que l'école soit faite juste pour assurer le fait que dès que vous êtes au CP, vous préparez l'entrée à Polytechnique. Parce que c'est quand même ça qui est dans l'idée, c'est vraiment un petit, il est au CP, mais enfin, un jour il sera à Polytechnique, tout le monde n'ira pas à Polytechnique, bon voilà. Mais donc il faut s'intéresser à la grande masse, et la Finlande, c'est ce qu'ils font, de tous les points de vue, avec des profs qui sont payés quand même 40% de plus que les profs français, avec 4 ans de formation, au lieu de 0. Donc il faut voir, bon, si toute la société mettait cet effort-là, ça pouvait se faire. Moi j'étais un peu long parce que c'est vrai.
On va peut-être prendre une dernière question, puis après on continuera de toute manière. Histoire de ne pas finir pour M. Paris.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le savoir, la démocratie, les citoyens, et donc vous parliez du fait qu'effectivement on ne peut pas tout savoir et que ça pouvait poser un problème quant au, quelque part, au mécanisme de décision vis-à-vis de quelque chose à décider en collectif. Mais moi, je ne suis pas sûr que le savoir soit si nécessaire que ça. Je pense que vous pouvez être omniscient, imaginant un peu une expérience de pensée. Vous savez tout sur tout. Ce n'est pas pour autant que vous serez juste ou bienveillant. On peut être érudit et puis prendre un bouquin et écraser une mouche. Enfin, c'est pas, c'est, pour moi, c'est pas. Il y a quand même deux choses orthogonales. C'est qu'il y a d'une part le savoir, la connaissance. Certes, c'est important, mais je ne trouve pas que ce soit primordial. Pour moi, ce qui me paraît vraiment primordial, il y a un facteur de décision qui me paraît quand même essentiel, c'est, alors, je n'ose pas dire le mot amour, parce qu'il est quand même pas mal galvaudé, mais je dirais bienveillance. Et ça, y a, la bienveillance, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Et lorsque je vois, par exemple, donc, tout ce qui est nucléaire, ou nanotechnologie, ou tous ces problèmes-là, ce qui nécessite, c'est un profond respect pour la vie et pour autrui, et pas tellement beaucoup de connaissances. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que citoyens, si on développe notre bienveillance vis-à-vis des uns et des autres et vis-à-vis de la nature, finalement, avec très peu de connaissances, j'ai une sacrée boussole pour éclairer les décisions collectives, pour ne pas dire une boussole sacrée. Voilà.
Oui, le thème ce soir c'est science et démocratie, et moi je suis très intéressé par les sciences, mais je suis aussi très attaché par la démocratie. Bon, le mot démocratie ça vient du grec, démos c'est le peuple, kratie ça veut dire le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, mais moi j'ai plus l'impression que c'est le peuple qui a le pouvoir, parce que si je regarde autour de moi, là où je travaille, j'ai pas l'impression que c'est les salariés eux-mêmes qui décident de la marche de l'entreprise. J'ai pas l'impression que peu importe qui on va élire, si c'est la droite ou si c'est la gauche, que vraiment il y a quelque chose qui va changer. Il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense pas qu'une société réellement démocratique peut accepter qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Espagne, il y a 45% des jeunes qui sont au chômage. Je ne pense pas que une démocratie peut accepter qu'il y a 45% des jeunes qui sont au chômage. Au niveau de l'Europe, on a construit l'Europe. Je suis très, très attaché à l'Europe parce que je suis d'origine allemande, je vis en France. Mais on a construit une Europe. On a élu un parlement, on n'a pas l'impression d'être réellement représenté dans le parlement, mais, et pourtant il y a quand même 80% des lois qui sont décidées par l'Europe, mais ils ne sont pas forcément décidés par le Parlement européen. Alors il y a des milliers d'exemples que je pourrais dire qui montrent qu'on n'est pas en démocratie. On n'est pas en démocratie, on nous fait croire qu'on est en démocratie parce qu'on dit les élections sont libres, oui, vous avez des élections, mais pourtant, on n'a pas le pouvoir de vraiment réellement intervenir sur notre destin, et on n'a pas vraiment la possibilité de changer les choses. Alors déjà, je voulais poser la question, est-ce que c'est moi qui déconne?
Non.
Est-ce que je suis le seul à penser qu'on n'est pas en démocratie? Et si j'ai raison qu'on n'est pas réellement en démocratie, mais comment on peut faire pour regagner de la démocratie? Parce que ça me paraît quand même important.
Je suis d'accord avec la description. Sur la solution, on fera un autre nom, et puis chacun peut avoir son opinion sur comment il faut faire pour sortir de là, mais sur la description, c'est absolument évident. Donc, en plus, il faut l'avoir en dynamique. C'est-à-dire que non seulement c'est la situation actuelle, mais l'empire. C'est-à-dire que ça n'améliore pas. Bon. Mais là, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit tout à l'heure en petit comité, bon, évidemment, c'est. Mais bon, ça ne nous empêche pas de discuter. Dans l'idéal, si démocratique, quel problème resterait à résoudre? Voilà, en gros. Alors, par rapport à la question que vous posiez, les sciences ne comportent aucune science. Je parle des sciences qu'on appelle dures, les sciences de la nature. Les autres, c'est plus compliqué. Mais pour celles-là, aucune science ne comporte un système moral de valeur. Aucune. C'est-à-dire qu'elle ne vous donne rien. Du point de vue de la boussole dont vous parlez, c'est absolument incontestable. Donc, il faut évidemment mobiliser les deux. Si vous avez un choix politique à faire pour la société, la science ne peut être c'est à la fois une contrainte, les savoirs qu'ils vous donnent sont à la fois une contrainte, une limite, mais c'est des choses qui sont presque effectivement étrangères au type de problèmes que vous voulez résoudre, donc avec un système de valeurs. Vous avez dit la bienveillance, donc, étendons ça à d'autres systèmes de valeurs. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut quand même la regarder comme système de contraintes qui est en dessous, malgré tout. Regardez, je vous donne un exemple qui, je crois, vous convaincre. Regardez le code de la route. Il y a un code de la route. Bon. Ce code de la route, il énerve pas, etc. Enfin bon, on ne peut pas l'éliminer. Les gens ne vont pas circuler sur les routes comme ils veulent. La bienveillance dont vous parlez, ça ne suffira pas à résoudre ce problème. Savoir s'il faut la priorité à droite ou à gauche, ça a été discuté pendant très longtemps, ça, hein, de savoir si à gauche ou à droite, parce qu'on roule à droite, et que la première chose qu'on voit, c'est les voitures qui viennent sur la gauche. Donc, en fait, on devrait avoir une priorité à gauche. En tout cas, ça a été discuté. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'affaire. La bienveillance ne suffira pas à résoudre ce problème. Et ça, des problèmes comme ça, il y en a par milliers. Donc, ce que je veux vous indiquer, c'est la même chose que l'exemple que j'ai pris au tout début sur la Grèce. C'est-à-dire qu'il y a l'essentiel de l'affaire, c'est les gens discutent dans le doute, orientés par un système de valeurs, et ils décident entre eux en fonction de ce système de valeurs. Donc, vous ajoutez, vous dites la bienveillance, bon, vous avez été, que je partage, hein, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le même, supposons. Ça, c'est vrai, c'est l'élément décisif. Mais il ne suffira pas à décider en connaissance de cause. Il ne suffira pas à décider en connaissance de cause parce que vous avez les contraintes qui sont les contraintes qui sont produites par la nature elle-même, déjà, et donc par les connaissances sur la nature. Autrement dit, vous avez dit ces deux systèmes orthogonaux. Après tout, pourquoi pas, on peut prendre cette image-là, mais il vous faut les deux. Il faut arriver à savoir comment vous combinez une décision qui a une efficacité pratique sur l'affaire, quel type de système d'énergie, comment vous allez le faire. Pour décider, c'est pour les dire sur le nucléaire, bien entendu que c'est d'abord la vision générale de la société qui va compter. Ça, je partage cette idée-là. Hein. C'est pas seulement la technique de l'affaire, ça c'est vrai. Mais après, il y a la technique de l'affaire quand même. C'est-à-dire savoir si elle est déchet ou pas. Et écoutez, c'est une question qui ne se décide pas seulement en fonction de la bienveillance. Si elle n'avait pas de déchets, la situation serait différente. Si ça ne pouvait pas exploser, la situation serait différente. Ça peut exploser et il y a des déchets et ça coûte très cher à le construire et à démanteler. Bon, c'est des données qui ne relèvent pas seulement du système de valeur que vous avez. C'est des données qu'on pourrait appeler objectives, si vous voulez. Alors, tout le monde ne la partage pas, parce qu'il y a d'autres experts qui défendent l'inverse. Discutons. Mais donc, autrement dit, je suis d'accord sur l'aspect orthogonal, mais vous voyez, si vous prenez cet exemple, je ne sais pas si ça dit tout ça à tout le monde, c'est le fait qu'il y a un axe comme ça, puis un axe comme ça, ils se coupent juste à un endroit, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est ça que ça veut dire, hein, dans l'affaire. Mais si vous voulez positionner bien un point dans le plan, il vous faut les deux données.
Ah mais justement, je pense que ce qui est intelligent, c'est de travailler à l'intersection des deux. C'est évidemment, il ne s'agit pas de se passer de savoir, mais si vous vous passez de bienveillance et que vous avez le savoir, c'est de la pire des solutions. Si vous vous passez de
savoir, d'accord, mais écoutez, non mais je vais même plus loin que vous en disant, en réaffirmant que les sciences en tant que telles ne disposent d'aucun système de valeur. Donc ce système de valeur doit bien venir d'ailleurs. Il doit dominer la discussion que nous avons. Je suis d'accord avec ça. Mais ça ne suffit pas. Vous avez dit à la fin de votre phrase, c'est pour ça que vous avez dit, j'ai l'impression qu'en se laissant guider par la bienveillance vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la nature, on ira vers les bonnes solutions. Et je vous dis oui et non. Oui, parce que c'est l'élément premier. Et non, parce que ça ne suffira pas à prendre des décisions les plus immédiates et les plus concrètes. Voilà. Enfin, il me semble. Hein.
J'ajouterais que vous êtes quasiment mûr pour vous présenter aux élections. Dans le sens où la bienveillance, oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et puis le constat général qu'on a pu faire, je suis d'accord. La bienveillance, c'est aussi des deux côtés. Et souvent, je peux vous assurer qu'on tape sur les politiques, mais sacrément fort. Et la bienveillance, elle n'est pas toujours là.